C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Oui, mais Mme Goyer, vous êtes allée à la marche pour le climat. Pas en tracteur, mais bel et bien à pied. Ça commençait au pied du Mont-Royal. D'abord, allons-y avec les nouvelles. On s'est connus, toi et moi, quand on était jeunes journalistes au Journal de Montréal et t'étais une sacrée pogneuse de nouvelles. Raconte-moi comment ça s'est passé quand les ministres de la CAQ ont été chahutés.
Non, je l'ai pas vu.
Quoi?
Oh, ça y est, je savais que ça en allait là.
Attends, wow! Maude Goyer, t'as raté la nouvelle.
J'étais en train de parler avec des jeunes, Pat.
Danny Doucet serait pas fier.
Danny Doucet serait pas fier.
Je l'enverrai à Voix de l'Est, à Granby.
il spinne dans sa tombe. Hein,
Danny Doucet, c'était notre patron.
Mais non, il est encore vivant.
On le salue. Oui, il est encore vivant.
Ben oui, je sais.
Non, c'est ça, je suis allée parler à des jeunes, en fait, sur place, Patrick. Puis,
on a perdu, Maude.
Ouais. Écoute, j'ai été fascinée de voir en fait que il y avait beaucoup de jeunes qui m'ont dit on était beaucoup plus nombreux d'habitude et là il y a beaucoup de monde qui sont à la maison de nos amis qui sont pas venus en 2021 évidemment les deux dernières années à cause de la COVID il y avait moins de monde. En 2019 Greta était là donc là c'est sûr qu'on avait atteint
des centaines de milliers de personnes.
500 000, hein, c'est ce qu'on dit.
Mais là, selon les estimations des organisateurs, mais même si c'est la moitié, c'est impressionnant.
Exactement, mais cette année moi j'ai vu vraiment beaucoup moins de monde. Ceux qui sont là évidemment veulent changer le monde. C'est des jeunes qui connaissent le programme des partis, qui sont convaincus. Il y a comme un noyau dur. Puis là, je leur ai demandé pourquoi ils étaient là. On va les entendre. Il y a Florence, 17 ans, Emmanuel, 16 ans et Marianne, 19 ans, qui avaient ceci à me dire.
On est ici parce qu'on trouve que le gouvernement n'en fait pas assez. Il faut pas que ça change dans 20 ans. Faut que ça change maintenant parce que si on attend 20 années, est-ce qu'on va vraiment pouvoir réparer les dommages qu'on a causés? Est-ce qu'on va pouvoir réparer la planète? Moi, ça m'étonnerait.
Je suis venu parce que j'ai envie de protéger l'environnement. J'avoue, parfois, je fais pas attention et je veux faire un changement quand même.
On est là pour démontrer que c'est une cause qui est prioritaire pour nous puis que les prochains gouvernements auront pas le choix de la prendre au sérieux dans les prochaines campagnes environnementales parce que ça va être la priorité de la population de plus en plus, je pense.
Maude, on peut écouter ça puis se dire « Ah, c'est des jeunes, c'est cute, etc. » Mais je veux juste souligner une affaire. C'est venu sur le radar de la société, là, il y a 30 ans, le problème des gaz à effet de serre. Ça existait avant ça. Mais au sommet de Rio, là, 1990-11, là, c'est là qu'on a vraiment là, nommé les choses. C'était il y a 30 ans. Si on avait agi pendant 30 ans, est-ce qu'on en serait au même point? Probablement pas. Est-ce que ce serait inévitable? Peut-être que non. Mais peut-être qu'on aurait réussi peut-être à infléchir les points de bascule là, qui nous pendent au bout du nez. Là.
Mais c'est ça, exactement. Mais moi, j'ai pensé, Patrick, que ce serait les jeunes qui seraient là, qui voudraient changer le monde, qui voudraient. Oui, il y a un noyau dur, mais il y a moins
nombreux?
De monde. J'ai trouvé pas. En fait, sur place, ils sont nombreux, c'est la majorité de la foule, mais ils sont moins nombreux. J'ai parlé avec des directions d'école, surtout à Montréal et autour de Montréal, qui me disent que dans les années passées, il y avait environ 30 à 40 d'absentéisme, surtout chez les secondaires 4 et 5. Cette année, c'est 15 à 20 me disent-ils. Donc, les enfants, les ados étaient plutôt en classe. Et les parents sur mes réseaux, je les ai aussi sondés. Il y en a vraiment beaucoup qui m'ont dit, ben mon enfant manque l'école, mais il est à la maison en train de chiller ou en train de faire du TikTok. Alors, les jeunes sont moins mobilisés. Puis là, je me suis demandé, mais pourquoi? Puisque dans le fond, il y a 75% selon un récent sondage qui font de l'éco-anxiété. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils sont cyniques? Est-ce qu'ils pensent que c'est une cause perdue?
Est-ce que
c'est la pandémie a fait qu'ils ont manqué beaucoup d'écoles, ils veulent rester sur les bancs d'école?
OK, permets-moi de t'apporter un argument, Maude.
Vas-y.
C'est bien beau marcher dans la rue, mais c'est les gouvernements qui peuvent changer les lois, imposer des normes. Ce qui est vraiment important, c'est d'aller voter.
Oui, effectivement, mais là, c'est ça. Il y a beaucoup de jeunes qui m'ont dit aussi, ben, j'ai 16, 17 ans, moi, je ne vote pas. Si je voterais, ils m'ont tous dit, je voterais Québec solidaire. Toute la gang à qui j'ai posé la question m'ont dit ça. Mais il y en a plusieurs qui m'ont dit l'argument aussi, pourquoi le vote n'est pas abaissé à 16 ans.
Oui,
là,
mais
on irait et on changerait les choses.
L'UQAM est fermé aujourd'hui et il y a beaucoup de gens qui ont 19, 20, 21. Est-ce que tu en as vu un? Et ceux que tu as vus, est-ce qu'ils vont aller voter ou non?
Oui, j'en ai croisé quelques-uns, puis oui, ils vont voter, mais il y avait beaucoup de jeunes de 15, 16, 17 ans.
Okay.
Et aussi des universitaires, bien sûr, qui, eux, vont voter. Et ils votent Québec solidaire parce qu'ils disent que c'est le seul parti vraiment qui nous envoie un message.
Ta génération, est-ce qu'il y avait des gens?
Oui, il y avait des familles. Oui, il y avait de tout. Il y avait des personnes plus âgées, il y avait des jeunes, il y avait des quadragénaires, il y avait des familles, des petites familles. Et vraiment, c'est ça. Donc, il y avait vraiment de tout, mais beaucoup de jeunes, effectivement.
Okay.
C'est juste que j'ai l'impression, en ayant parlé aux parents, aux jeunes et aux directions d'école, au personnel scolaire, que les jeunes sont moins mobilisés qu'avant.
Écoute, oui, peut-être, mais regarde, déjà, il y en a des milliers. c'est parfait. Ça veut pas dire que les jeunes sont pas intéressés.
Ça veut pas dire qu'ils sont pas intéressés, mais ils sont pas présents. Donc, est-ce qu'ils posent des actions dans le quotidien ou à leur école? Peut-être. Il y a plein de programmes qui existent. Plusieurs m'ont parlé de ce qui se faisait dans les écoles. Mais si on veut braquer des projecteurs sur la cause, oui. Ils étaient pas tous là. Il y en a beaucoup qui étaient à la maison.
Très bien. Merci beaucoup, Maude Goyer. Est-ce que tu restes avec nous pour le quiz?
Bien sûr.
Je pensais que tu allais retourner dans la rue.
Je vais rester ici, mais 120.
Je dois t'avouer que je suis un petit peu déçu que tu aies raté la nouvelle de ces ministres de la CAQ qui ont été chahutés. Retrace. Si on était au Journal de Montréal en 1999, là, je te dirais, trouve des manifestants qui étaient là.
Je vais défendre Maude.
Je retourne tout de suite et je vais muter vers la salle de nouvelles alors.
Je vais défendre Maude. T'es trop honnête. Ce que tu aurais dû faire, ce que tout journaliste aurait fait à Patrick, tu lui réponds,
voyons.
J'étais là, je les ai vus, avec un extrait que tu vas chercher.
Non.
Puis bonsoir.
On peut parler de ta première chronique sur les moustaches aussi, si tu veux, au Journal de Montréal.
Pardon? Tu as fait une chronique sur les moustaches?
Patrick Lagacé, en accéléré.
On sait que l'ouragan Fiona va frapper fort dans l'Atlantique. Les provinces des Maritimes se préparent au pire et les îles de la Madeleine, l'archipel québécois qui est dans le golfe du Saint-Laurent, sont aussi sur un pied d'alerte. On va aller tout de suite en Nouvelle-Écosse rejoindre Christian Dumais qui fait un voyage en famille d'un an sur son voilier. La famille est en direction des Bahamas quand ils ont trouvé refuge en Nouvelle-Écosse à cause de la tempête liée à Fiona. Monsieur Dumais, bonjour.
Bonjour.
Comment ça se passe dans votre coin présentement?
Ben, pour l'instant, la pluie a commencé. On n'a pas beaucoup de vent encore. Là. Ça commence tranquillement, mais on a de la pluie. Nous, on est en sécurité là, dans une petite maison qu'on a louée là, sur Airbnb.
OK. Parlez-nous un peu du voyage là, que vous êtes en train de faire ce voyage en voilier. C'est un beau périple. Un an sur votre bateau qui s'appelle Calipige. Je sais pas si je prononce bien. Calipige 1. Vous en étiez où dans ce périple-là quand vous avez décidé de faire un croche par la Nouvelle-Écosse?
Ben, la Nouvelle-Écosse était déjà planifiée dans notre voyage. Donc, on passait par les îles de la Madeleine. Par la suite, on venait ici en Nouvelle-Écosse. On traversait la Nouvelle-Écosse tranquillement. Puis, on partait pour les États-Unis par la suite pour aller vers Boston et descendre toute la côte est américaine jusqu'en Floride pour pouvoir traverser aux Bahamas, là, aux alentours de la fin décembre, début janvier.
OK, c'est un beau voyage, mais là, évidemment, une tempête comme ça bouleverse les plans. On est dans la saison des ouragans. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez entrevu comme capitaine de bateau?
Oui, on savait qu'on allait être dans cette zone, tu sais, un peu plus houleuse de la saison. Habituellement, ça passe plus au large que dans les terres comme on est là. Puis il y a quelques imprévus qui sont arrivés, des petits ennuis moteurs et compagnie qui ont fait en sorte que ça nous a retardé un petit peu dans notre itinéraire. Mais quand même, en Nouvelle-Écosse, depuis deux semaines, les conditions météo sont pas très propices à la navigation. Donc, c'est pour ça qu'on a un petit peu de retard dans notre échéancier, là, mais pas... Tant que ça, on a peut-être une semaine et demie de retard dans notre échéancier.
OK. Donc là, racontez aux gens qui nous écoutent là, comment, quand on est comme ça, en famille, sur un bateau, vous êtes avec votre épouse et vos deux enfants de 11 ans, à quel moment et pourquoi on décide de s'amarrer pour laisser passer la tempête?
Ben, nous, notre but premier, on n'est pas des amateurs de course. Donc, nous, on fait ça pour le plaisir, pour le voyage. Donc, ce qui est important, c'est que tout le monde vive une belle expérience, que tout le monde soit en sécurité. Là, on voyait que ça s'en venait dangereux. On s'est pris une place vraiment éloignée de la côte pour pouvoir être en sécurité, avoir une place pour dormir aussi. Donc, on a fait nos devoirs. On a sécurisé le bateau, donc on a tout enlevé sur le bateau pour que ça n'apporte aucune friction au vent. Et on s'est assuré là, que le bateau soit en sécurité. On a doublé nos amarres pour être sûr que tout soit solide et puis qu'on ait un backup. Disons que les amarres primaires lâchent.
C'est un beau trip, comme on dit, de faire un voyage en bateau comme ça, en famille. Et puis vous allez dans les Caraïbes. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans cette aventure-là, M. Dumais?
En premier lieu, le goût du changement, je vous dirais. Le goût de faire vivre d'autres choses à nos enfants aussi. Le rythme effréné de nos vies faisant en sorte qu'à un moment donné, on voulait prendre une petite pause, puis nos emplois à chacun nous le permettaient. On pouvait chacun avoir un ce qu'on appelle un congé différé. Donc, on a eu des salaires moindres pour qu'on puisse le mettre de côté puis pouvoir partir en voyage. Fait que c'est ce qu'on voulait apporter à nos enfants, ce qu'on voulait s'apporter aussi à nous, une petite pause, voir du pays, voir un petit peu comment ça se passe des autres cultures. Puis ça ressemble à ça. Peut-être Sophie, ma conjointe, pourrait vous dire autre chose aussi, là.
Ben c'est juste parfait après tout ce qu'on a vécu dans les dernières années, deux dernières années, de pouvoir prendre cette pause là, rencontrer des gens aussi tout au long du voyage, puis découvrir la côte est américaine, même ici les maritimes, d'une autre façon que de prendre sa voiture puis d'aller passer deux semaines pendant les vacances d'été.
Ben écoutez, vous nous faites rêver, puis je vais tout de suite passer à je dois mettre fin à l'entrevue parce que sinon vous allez me faire rêver, je risque de lâcher ma job puis de m'acheter un bateau puis de partir moi aussi.
Pas de problème. Puis on le fait aussi pour apporter des sous à l'Association du cancer de l'Est du Québec. Donc, si jamais vous avez le goût de faire un petit don, vous allez sur escapadeenfamille.ca. Puis il y a possibilité de faire des dons pour l'Association du cancer de l'Est du Québec.
Ben parfait. On va s'assurer de relayer tout ça là, avec votre adresse de site web, Sophie et Christian, sur nos réseaux sociaux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis bonne suite de voyage quand la mer va devenir plus clémente.
On attend le calme, ça viendra.
Après la pluie, le beau temps. Salut, bonne journée, bonne fin de semaine. C'était Christian Dumais et sa conjointe Sophie qui ont dû faire une escale pas très prévue en Nouvelle-Écosse à cause de la tempête Fiona. Donc, je répète le site web de la famille escapadeenfamille.ca. Il y a toute la documentation sur le voyage de cette famille qui est en bateau présentement. D'habitude, Philippe Quentin n'est pas en chronique à 17h. On lui donne congé le vendredi. Mais évidemment, le lendemain de débat, on a fait une exception. Il fait du temps supplémentaire. Salut Philippe.
Salut Patrick.
Donc, solide débat.
Oui, solide débat. C'était super intéressant du début à la fin. Je répéterai pas ce que tout le monde a dit. Je suis pleinement d'accord avec ça. C'était un très bon débat. Beaucoup de contenu. Les gens se sont respectés, se sont écoutés, ce qui n'a pas empêché quelques petites passes d'armes qui ont mis du piquant à travers tout ça. Mais ça a été un excellent débat. Si tu veux, moi, j'irai avec les deux chefs qui, à mon avis, se sont le plus illustrés, Dominique Anglade et Paul Saint-Pierre Plamondon. Anglade, Patrick, on se souvient, ça a été une performance assez désastreuse pour elle il y a une semaine à TVA. Elle n'était pas du tout ressortie alors qu'elle avait besoin de porter un gros coup. Elle en était absolument incapable. Alors, les attentes étaient basses. Et là, je trouve que c'est une autre Dominique Anglade qu'on a vue au point où je me disais, si elle avait été comme ça depuis le début de la campagne, peut-être que le Parti libéral ferait légèrement mieux dans les sondages. Elle a eu, d'abord, elle a parlé, elle s'est adressée aux gens directement en disant, moi, je parle à vous à la maison, je parle aux millions de Québécois qui n'ont pas un médecin de famille.
Et c'est la seule qui regardait la caméra, ça
oui,
c'est vrai.
Oui. Et ça, j'ai trouvé que c'était très, très habile. J'ai trouvé qu'elle a raconté des trucs, qu'elle avait des éléments, notamment sur les droits des femmes. Elle a beaucoup axé ça là-dessus. Je suis convaincu que ça a dû toucher beaucoup, beaucoup de femmes, notamment quand elle parle du temps supplémentaire obligatoire, le fameux TSO pour les infirmières, beaucoup pour les puis aussi les conditions de travail des enseignantes et tout ça. Tu sais, elle dit ça fait en sorte que les femmes se demandent, est-ce qu'on peut être à la fois bonne mère puis bonne employé, puis ça devient extrêmement difficile de conjuguer tout ça. Là, je pense qu'elle m'a mis un problème sur une réalité. On le sait, hein, on a interviewé un paquet de gens qui nous disent ça, que c'est un peu comme ça que ça se passe dans la réalité. Alors, je trouve que là-dessus, elle a été vraiment bonne.
OK, puis Paul Saint-Pierre Plamondon, solide encore une fois.
Oui, solide encore une fois, puis je te dirais qu'il a gagné un débat dans le débat de la gauche. Il y avait deux partis de gauche, il y avait Paul Saint-Pierre Plamondon, Gabriel Nadeau-Dubois. Je pense que les deux, à quelque part, ils sont des opposants. Beaucoup de gens ont noté avec raison qu'il y avait des zones de convergence entre les deux tout au long du débat, que ce soit sur l'environnement, sur un certain nombre de thèmes. Mais il y a quand même un débat débat. Les deux sont à la recherche d'une clientèle plus progressiste sur certains aspects, notamment les enjeux sociaux. C'est moins vrai, évidemment, sur les questions liées à l'immigration, par exemple. Mais dans ce débat-là, j'ai trouvé que Paul Saint-Pierre Plamondon avait été plus performant. Il a été très bon quand il a attaqué François Legault sur la question du français, quand il a dit que François Legault était un climato-sceptique de la langue. Ça, j'ai trouvé ça bon. Et je pense que pour la deuxième fois, il fait un débat qui est assez porteur pour lui. C'est deux en deux pour lui. Et tu regardes, là, on est à peu près quoi? Une dizaine de jours de l'élection. Je veux juste revenir avec Dominique Anglade. Est-ce qu'un débat comme celui-là peut la relancer? À mon avis, la réponse est non.
Oui.
Il est trop tard.
Oui.
Il est trop tard. C'était bien son débat, mais il est trop tard. Par contre, un débat du jour de l'élection, ce que ça peut faire, c'est consolider un certain air d'aller. Ça, je pense que Paul Saint-Pierre Plamondon a ça, ce certain air d'aller-là. Alors, peut-être que ça va l'aider à consolider ça. Pour Dominique Anglade, je pense que malheureusement, pour elle, il est un peu tard.
Qu'est-ce que t'as pensé de François Legault?
Alors, encore une fois, plutôt déçu de François Legault. Patrick, il a tellement pas l'air de s'amuser. Tu sais, moi, je pense que les gens, ils veulent des politiciens qui ont l'air de vouloir faire la job avec plaisir,
passionné,
avec enthousiasme.
Il a perdu
exactement. Tu sais, il dit des choses, il devient tellement irrité qu'il en perd des occasions de marquer des points. Alors, il y a un échange que j'ai trouvé absolument invraisemblable. Alors là, il reproche à Paul Saint-Pierre Plamondon de vouloir imposer une surtaxe aux pétrolières en raison des profits que les pétrolières, aux immenses profits qu'elles génèrent là, depuis environ 6 mois à 1 an. Et lui, François Legault, il n'est pas d'accord avec ça parce qu'il dit, au bout du compte, ça va être refilé aux consommateurs.
Ce qui n'est pas un mauvais point.
Ce qui n'est pas un mauvais point, mais au lieu de l'expliquer, il choque, puis il dit à propos de Paul Saint-Pierre Plamondon, il s'adresse même pas à lui par le « vous ». Il dit « comment ça qu'il comprend pas ça? » Tu sais, un premier ministre comme ça, dans un débat, qui lance une phrase de ce même-là, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et je trouve qu'il a été un peu sur cette défensive-là tout le long. Il a mal paru à la fin, quand Dominique Anglade lui a demandé « c'est quoi un Québécois? » À la fin, là, dans le débat sur la loi 21, il a patiné, puis là, il a dit, ben c'est tout le monde qui habite le territoire du Québec, puis elle a dit, ben c'est pas tout le monde qui habite le territoire du Québec qui est d'accord avec la loi 21, puis là, on l'a senti un peu perdu. Alors, j'ai pas trouvé que c'était un très bon débat pour François Legault. Il a fait des flamèches avec Éric Duhaime, là, sur la question de la gestion de la COVID, est-ce que c'était trop, est-ce que c'était pas assez. Je pense qu'il a voulu passer son message. Et encore une fois, est-ce que c'était super efficace, pas convaincu.
Et Philippe, je suis sûr que tu as vu la même chose que moi. Ce qui est particulier, François Legault avait réussi à amener le nationalisme. Ce qui fait que le clivage souverainiste fédéraliste était réglé. Et hier, c'est lui qui a eu l'air fou dans cette question-là. Ce qui est bizarre.
Parce
que c'est rendu que si tu te places, et c'est Anglade est clairement fédéraliste, PSPP est clairement souverainiste.
Clairement.
Mais c'est lui qui s'est fait prendre à son propre jeu où il n'est pas capable de répondre. Il a juste à dire, je veux pas en parler, mais il dit même plus ça. Il avait l'air complètement perdu.
C'est étonnant comment un premier ministre qui est au contrôle de toute la machine gouvernementale depuis 4 ans, qui est supposé et qui doit avoir la pleine maîtrise ou à peu près d'un ensemble de sujets, qu'il perde 2 débats comme celui-là. Ou qu'il perde, c'est peut-être un bien grand mot, mais qu'il n'arrive pas à s'imposer.
Mais
il n'arrive pas à donner son ton au débat.
Pourquoi, selon toi?
Parce qu'il ne s'amuse pas. C'est clair qu'il s'amuse pas, ça. Pourquoi il s'amuse pas, je ne sais pas. Mais faire une campagne électorale, il y a des gens qui sont des campaigners. Là, Bill Clinton, quand il faisait une campagne électorale, il aimait ça.
Brian Mulroney.
Jean Charest, quand il faisait une campagne électorale, peut-être moins le dernier coup avec les conservateurs, mais quand il était...
C'est une course au leadership.
Oui, c'est une course au leadership, tu as bien raison de dire. Mais dans une campagne électorale, il aimait ça.
Mais si... Regarde, reculons un peu. Okay, on va reculer la cassette. Là. Moi, je me souviens, il y a 4 ans, okay, on approchait du scrutin du 1er octobre. C'était pas gagné pour la CAQ. Hein, on le sait, là, ça s'est cristallisé dans les derniers jours. Grosse victoire, parfait. Mais avant ça, qu'est-ce qu'on retenait de François Legault? Oui, il était, disons, le gars qui avait réussi à fédérer des nationalistes, des fédéralistes pour créer une alternative. Parfait, c'est jamais facile de créer un parti. Puis ça, faut lui donner ça, il l'a fait. Ceci étant dit, moi, je me souviens de faire une chronique chez Paul Arcand il y a 4 ans pour souligner à quel point il était gaffeur. Il faisait beaucoup de gaffes de fond et de forme. Et là, il arrive premier ministre. Oui, l'épreuve de la pandémie, regarde, ça a été un test de leadership. Je pense que dans les premiers mois de la pandémie, il l'a passé. Ceci étant dit, c'est plus facile de ne pas faire de gaffes quand tu es premier ministre que quand tu es en campagne électorale. Là, on revient au François Legault, à mon humble avis, qu'on voyait avant. Là, il n'est pas juste le premier ministre, il est aussi chef de parti. J'aimerais le voir s'élever au-dessus de la mêlée. Là, je l'ai écrit, on en a parlé.
Ben oui, tout à fait.
Mais il revient quand il contrôle pas tout. quand tu contrôles pas le calendrier, quand tu contrôles pas la date des annonces, quand tu contrôles pas le montant qu'on va mettre pour combler tel, pour régler tel problème, combler tel trou, là, soudainement, il est pas mal moins, au-dessus de ses affaires. Mm. Quand il est talonné comme ça, moi, je pense que c'est sa vraie nature. Il aime pas être contredit, il est impatient, il est bougonneux. Ben, quand t'as toute une équipe qui peut prendre plein de temps pour t'écrire des lignes au gouvernement, c'est une chose. Puis quand il est pas scripté puis qu'il est à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui arrive? Il est pas mort, lui. Gardons Mère Teresa, etc.
Ouais.
Je m'excuse. Mais c'est parfait. Il a le droit de faire ça. Moi, je trouve que c'est lui-même qui a dit « Faut que je sois plus zen. » Il y a un an
je
et demi à peu près. «
Je veux rester zen.
» Donc...
Il est avec nous.
Il le sait. Mais c'est parce que quand tu te pognes dans des controverses comme ça, quand tu es en débat puis tu pètes un gasket, pour parler en bon québécois, ben tu perds un petit peu de lucidité, de clarté.
Est-ce que je vais te poser une hypothèse? Est-ce que ça se peut que le fait qu'il ait été à la tribune pendant toute la pandémie, là, un certain moment quotidiennement, 6 jours par semaine, sans être véritablement contredit, que ça lui a fait perdre un certain nombre de ses réflexes dans une situation où il est sujet à débat?
Moi, je suis assez d'accord. Patrick, lui pense que c'est intrinsèquement inné. Mais c'est... À un moment donné, écoute, il est devenu le gourou du Québec, là. Tu sais, je veux dire, il était devenu le gourou du Québec.
Philippe EMC.
Oui.
Écoute, en temps réel, il y a quelqu'un qui m'écrit dans la messagerie 98985. Vous êtes dur avec M. Legault. Il peut être épuisé après avoir bien géré une pandémie.
Ben oui.
OK. Mais... Parfait. Mais ça, quand j'ai écrit sur M. Legault dans la presse cette semaine, quand j'ai fait le commentaire, hier, ici, à cette antenne, il y a plein de gens qui m'ont écrit pour me dire ça. Je veux juste soumettre bien humblement. Je connais des médecins qui ont servi en soins intensifs pendant la pandémie. Ils sont corrects maintenant, là. Ça va, là. OK? Tu te reposes, tu prends des vacances. Est-ce que M. Legault a été très sollicité pendant la pandémie? Absolument. Là, là, ça fait un petit bout qu'on est sorti des pires pics de la pandémie. Pour moi, c'est plus une excuse.
Je suis pleinement d'accord avec toi. Puis en plus, on le sait, là, cet été, il a été moins présent aussi.
Et tant mieux pour lui.
Ben, c'est ça, il a pu potentiellement recharger les batteries. Alors, écoute, on verra bien. Il reste quand même avec une avance considérable dans à peu
Absolument.
Près tous les sondages. Alors, pour lui, le risque était quand même
Mais,
faible.
Il y a quelque chose qui m'intéresse quand même, parce que tu viens d'en parler. Rappelez-vous, oui, la CAQ a vécu une grosse, grosse vague. Je couvrais ça ce soir-là et vous vous rappelez que les candidats n'étaient même pas arrivés et ils gagnaient. Mais le dernier sondage avant les élections, c'était égal.
C'était pas clair qu'il allait gagner.
C'était pas supposé. Il n'y a rien qui nous dit qu'en ce moment, avec 5 partis en plus, et tout le monde le dit, et quand vous regardez d'ailleurs Le Léger et d'autres, ils disent pas tous la même chose. Donc moi, je serais pas surpris qu'il se passe des affaires différentes de ce qu'on croit.
Il reste quand même pas mal dans une fourchette là, dans les hauts 30, les bas 40.
C'est pas ça que je te dis. Il va gagner. Mais tu sais pas.
Merci Philippe, et quelqu'un m'écrit avec l'affabilité habituelle des fans de M. Duhaime. Naturellement, vous parlez pas de M. Duhaime. On en a parlé, monsieur. Je pense que vous avez des problèmes de mémoire sélective. Merci Philippe.
Patrick Lagacé en accéléré.
OK. Hier soir, plus sérieusement, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est adressé en russe aux citoyens russes et il les a invités à manifester et à fuir la Russie. On sait que il y a un avis de conscription déguisé qui a été lancé par le président Poutine. Les hommes russes qui ont déjà fait leur service militaire, je pense qu'il y a un service militaire là, obligatoire en Russie, ils sont démobilisés depuis longtemps. Ils ont reçu 300 000 d'entre eux des avis, les enjoignant à rejoindre des casernes. Ils sont appelés sous les drapeaux. Ça a poussé plusieurs milliers de personnes à prendre des billets d'avion, à se ruer vers les frontières pour fuir. Là, la réalité de la guerre en Ukraine, qui était peut-être pas si visible, si réelle en Russie, si on met à part l'effet des sanctions internationales, mais là, soudainement, ça devient très concret pour les familles russes. Et on va parler de tout ça avec Stéphane Sion, qui est journaliste basé en Ukraine. Salut Stéphane!
Salut.
Stéphane, peut-être commencer par nous résumer le propos du président Zelensky.
Alors, le président Zelensky s'est adressé à sa population hier soir, hein, lors de son adresse quotidienne à la population ukrainienne par vidéo. Comme d'habitude, il l'a fait en ukrainien, la langue nationale. Il a donné les nouvelles du front, les nouvelles de la marche de la guerre. Et puis, en plein milieu de son allocution, il a pris la parole en russe, ce qui est pas tout à fait classique en Ukraine, parce que les hommes d'État parlent en ukrainien. Le russe qui est pourtant la langue natale de Volodymyr Zelensky, et il a souhaité s'adresser à la population russe dans sa langue. Ce qu'il a souhaité leur dire, c'est en effet que la guerre désormais était en train d'arriver dans les maisons en Russie, avec cet ordre de mobilisation qui a été ordonné par le Kremlin. Il a affirmé que les services ukrainiens étaient déjà au courant depuis plusieurs jours de cet ordre de mobilisation, parce que les agences de renseignement ukrainiennes avaient déjà la connaissance que des papiers étaient envoyés dans les foyers pour recruter des hommes, et que selon les informations ukrainiennes, ce n'était pas 300 000 hommes qui allaient être recrutés par l'armée, mais plutôt 1 million. Et en fait, Volodymyr Zelensky a souhaité adresser un message aux citoyens russes, aux hommes et aux femmes. Aux hommes, il leur a dit qu'ils avaient finalement 3 choix. Ils pouvaient, alors, d'un côté, se rebeller contre leur État. Ils pouvaient également fuir, mais ils pouvaient également se rendre à l'Ukraine. Et que le choix qui était maintenant en face de ces citoyens russes, c'était la vie ou la mort. Il s'est également adressé aux femmes de Russie. Les mères de soldats, c'est quelque chose qui est très important, hein, en Russie depuis les guerres de Tchétchénie notamment. Et il s'est adressé à ces femmes en leur disant: vous allez avoir vos maris, vos fils, vos petits-fils qui vont partir en Ukraine et qui risquent de mourir et de ne jamais revenir. Donc maintenant, c'est à vous, en tant que citoyen russe, de prendre des décisions et d'agir pour savoir si vous voulez être coupable également de ce crime, de cette guerre, de ces crimes de guerre. Donc c'est un message véritablement très fort qui a été envoyé par Volodymyr Zelensky aux Russes. Alors bien entendu, Volodymyr Zelensky ne passe pas tous les soirs à la télévision russe, mais ses paroles circulent sur Internet, hein, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur Telegram. Je suis pas forcément sûr que cela peut avoir un impact sur le grand public en Russie, mais voilà, Volodymyr Zelensky a voulu marquer le coup en disant aux Russes: vous êtes devant un choix vital.
Stéphane, c'est ce qui m'amène à ma prochaine question. Je veux dire, le président ukrainien a fait cette déclaration, s'est adressé aux Russes, aux femmes russes, mais à quel point est-ce que son message va circuler à l'intérieur de la Russie? On sait qu'autour de la Russie, il y a une sorte de rideau de fer de l'information quand même, là.
Oui, tout à fait. D'autant plus que toutes les informations qui proviennent d'Ukraine ne circulent pas sur les médias russes. Maintenant, Internet est ce qu'il est, c'est-à-dire que les gens qui veulent s'informer, les gens qui veulent avoir accès au monde en Russie, ils peuvent toujours avoir accès aux informations. La question, c'est plutôt l'idéologie. On est dans un système qui est totalement fermé, un système qui a fonctionné sur la propagande d'État depuis de nombreuses années, et il y a une grande partie de la population qui a le cerveau totalement lavé par cette propagande et qui ne souhaite pas entendre des informations qui viennent de l'extérieur. Maintenant, je pense que les propos de Volodymyr Zelensky seront entendus dans une certaine partie de la population, sans doute la frange urbaine de la société russe à Saint-Pétersbourg, à Moscou. Par contre, il est fort probable que le message ne passera pas dans les régions les plus reculées de la Russie. Or, on voit bien que ces dernières 24 heures, la mobilisation en Russie a commencé par les régions périphériques. On a vu aujourd'hui un grand nombre de vidéos d'hommes qui partent en train, en bus depuis les provinces de Sibérie, voire même l'île de Sakhaline sur le Pacifique, et qui est plus proche du Canada que de l'Ukraine. Il faut bien se rendre compte, la Russie est actuellement en train de mobiliser des hommes qui géographiquement sont plus proches du Canada que de l'Ukraine. Et ces hommes, ces futurs conscrits qui vont être envoyés en Ukraine, n'ont absolument aucune information sur ce qui se dit en Ukraine. Ça, c'est absolument certain. Donc, les paroles de Volodymyr Zelensky sont sans doute également adressées à sa propre population et à la communauté internationale.
Stéphane, on sait qu'en Russie, le nationalisme d'État, là, qui fonctionne beaucoup à la propagande, est très, très fort. Est-ce que, on a vu les images de Russes qui essaient de fuir la Russie pour ne pas être conscrit. Est-ce qu'on sait quand même s'il y a beaucoup de Russes qui sont motivés à aller en Ukraine?
Alors, vous savez, moi, je resterai très humble sur cette question, tout simplement parce que ça fait presque 10 ans que j'habite en Ukraine. Je connais bien la Russie, j'y ai beaucoup été à une certaine époque, mais moins ces dernières années, et je me considère plus comme un spécialiste de l'Ukraine que de la Russie. Néanmoins, je parle russe, je suis les médias russes, je suis la société russe. Ce que j'observe, c'est que la mobilisation contre la conscription et contre la guerre est relativement faible. Alors, bien entendu, dès l'annonce de cette conscription, il y a eu des manifestations, il y a des gens qui sont descendus dans la rue, il y a eu plusieurs centaines d'arrestations, mais ça ne change pas grand-chose par rapport à des manifestations qui auraient eu lieu contre Poutine ces dernières années. Ce qui est très frappant, et moi je vais vous apporter un peu le point de vue ukrainien, un petit peu subjectif sur cette histoire, c'est que beaucoup d'Ukrainiens se demandent pourquoi, maintenant, depuis 48 heures, des citoyens russes anti-Poutine, soudain, se réveillent contre la guerre. Et la perception qu'on en a en Ukraine, c'est que il y a beaucoup de citoyens russes qui se sont tus pendant 7 mois, 8 mois, pendant que ces crimes de guerre étaient commis ici, qui n'étaient pas forcément contre la guerre, mais que désormais, ils sont contre la guerre pour eux. Ils n'étaient pas forcément contre la guerre contre l'Ukraine, mais ils ont très peur de se retrouver désormais comme de la chair à canon qui sera emmenée contre leur plein gré dans les fossés, dans les tranchées, dans le Donbass, à l'est de l'Ukraine, et que tout simplement maintenant beaucoup de gens ont peur. Mais les manifestations, de manière très très claire, n'ont pas donné grand chose. Il y a eu beaucoup d'arrestations, comme c'est souvent le cas en Russie dès qu'il y a un petit mouvement dans la rue. On voit beaucoup de gens qui sont en train de partir au frontières du pays, il y a les avions qui sont partis vers la Serbie, vers la Turquie, on voit ces voitures qui partent vers l'Arménie, vers la Géorgie, mais on sent qu'il y a beaucoup de peur individuelle, mais que de manière globale, la population russe ne condamne pas la guerre en tant que telle pour ce qu'elle est, un crime contre la nation ukrainienne. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir? Il y aura sans doute des répercussions au niveau politique, parce que la guerre est en train d'arriver dans les foyers. Est-ce que ça va changer la dynamique de la guerre? J'en suis moins certain.
Stéphane, cette mobilisation d'au moins 300 000 Russes pour servir sous les drapeaux, là, sans grand entraînement, faut le préciser, comment c'est reçu en Ukraine? Est-ce que les Ukrainiens trouvent que c'est un tournant dans la guerre ou c'est un signe de faiblesse de l'armée russe?
Alors, je vous dirais que j'ai été assez étonné du manque de réaction côté ukrainien. Alors, bien sûr, les médias en parlent, hein, sur Internet, à la télévision, mais j'ai perçu beaucoup de flegme et également beaucoup d'ironie, voire même d'humour noir. Je n'ai pas pressenti de peur, la peur que 300 000, 500 000 ou 1 million de nouveaux soldats russes allaient déferler sur l'Ukraine, mais plutôt, en fait, des rires un petit peu sarcastiques en se disant, mais qu'est-ce que c'est que ce pays qui, du jour au lendemain, est en train d'envoyer des centaines de milliers de civils à l'abattoir? Parce que, alors, officiellement, la mobilisation russe concerne des personnes qui ont déjà une formation militaire, qui ont déjà fait leur service militaire, mais qui en réalité ne sont pas des soldats de métier, n'ont pas véritablement de connaissance des métiers des armes, et également beaucoup de gens qui n'ont absolument aucune expérience et qui vont se retrouver sur un champ de bataille où ils auront en face d'eux l'armée ukrainienne extrêmement motivée, qui défend son territoire, qui dispose d'armements modernes qui sont fournis par les Européens. Et du côté ukrainien, les gens se disent que ça va plutôt être une boucherie, si vous me permettez l'expression, pour les Russes. Donc, j'ai pas perçu une peur, une inquiétude, mais plutôt beaucoup de rancœur envers la Russie en tant que pays qui permet d'utiliser sa propre population comme chair à canon.
Merci Stéphane Zia, faites attention à vous.
Merci, à très bientôt. Bonne journée.
À la prochaine. Monsieur Sion est correspondant français basé à Kiev. Et juste une petite précision, quand je parlais d'une armée russe mal entraînée, c'est ce qui frappe les analystes depuis le début du conflit en Ukraine. C'est-à-dire que, d'une part, les soldats russes ne sont pas les super soldats qu'on attendait. Ce qui se passe sur le terrain, sur le théâtre des opérations, là, ça trahit un manque d'entraînement, semble-t-il. Une armée mal équipée, pas très bonne pour planifier les besoins des soldats. On a vu toutes tous les problèmes sur l'équipement des camions qui ne fonctionnaient pas, etc., etc. Et là, il y a de gros doutes sur la capacité de la Russie, de l'armée russe, à entraîner rapidement 300 000 personnes. Il semble que ce soit d'un côté, d'un point de vue militaire, là, il semble que ce soit une très, très grosse bouchée à avaler.
Patrick Lagacé, en accéléré.
C'est 23.